Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Okay. On est à l'antenne, Pascal.
Mais je croyais que nous avions une petite musique pour commencer, pour tout vous dire. Comment ?
La voilà.
Comment apprendre sans ennuyer ? Comment lire ? Sans jargonner, comment questionner, je ne dis pas interviewer, il n'aimerait pas, comment questionner sans agresser. Il était un passeur, non pas de plat, mais un passeur de culture, d'énergie, de curiosité. Bernard Pivot appartient à une génération en or, Jacques Chancel, Alain Decaux, José Arthur, Philippe Bouvard. On parlait de Mozart, de Michelet, de Solzhenitsyn, de Béjart, de Soulages, avec la grâce et la légèreté de Rudolf Nureyev dans la Bayadère. J'avais 12 ans, 13 ans, et je n'avais pas le droit de regarder la télévision après 20h30, sauf le vendredi soir, après les Brigades du Tigre ou après Château-Vallon. Le concerto de Rachmaninoff annonçait une permission de 22h30. Philippe Solers fumait avec un porte-cigarette. Bukowski prenait du whisky ou du vin blanc. Je sais, fumais-tu et boire abîme. Mais Dieu, que j'ai aimé cette époque. Les décolletés de Bernard Henry, les yeux bleus de Monsieur Jean, dont ma mère était follement éprise, les phrases d'un jeune homme à la mémoire trouée qui fera du passé une mélancolie pour somnambule. Le passé ne passe pas et Patrick Modiano a écrit pour toujours La Place de l'Étoile. Merci, Monsieur Pivot. Merci pour Simenon, Duras, Yourcenar. Merci pour ses tenues colorées, ses chemises et ses cravates qui n'allaient pas toujours ensemble. Merci pour cet état d'esprit. C'est un ton, une couleur, une humeur, un état d'esprit. Merci, Monsieur Pivot. Et vive les livres! Il est 9h01. Je vais vous présenter nos invités dans une seconde. Nous sommes sur Europe 1 jusqu'à 9h30 et sur CNews jusqu'à 10h30. Chanel Housteau.
Bonjour Pascal et bonjour à tous. Israël dit avoir pris le contrôle du côté palestinien du point de passage de Rafah. Ce point de passage relie la bande de Gaza à l'Égypte. Une démonstration de force alors que de nouveaux pourparlers auront lieu aujourd'hui au Caire au sujet d'un possible accord de trêve. Hier, le Hamas a accepté une proposition de cessez-le-feu durable qui n'a pas convaincu les autorités israéliennes. 366 faits antisémites ont été recensés en France entre janvier et mars. Gabriel Attal l'a annoncé hier soir au dîner du CRIF. Le premier ministre parle d'une déferlante. Il faut dire que ça représente une hausse de 300% par rapport à l'année dernière. Et selon lui, la France insoumise a sa part de responsabilité.
J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre.
Ont finalement réintégré Colombe. La bénévole de 60 ans avait été poussée vers la sortie après avoir affiché son soutien au Rassemblement national. Même si son cri de désespoir avait beaucoup ému sur les réseaux sociaux, l'association n'avait pas aimé qu'elle affiche ses sensibilités politiques. Aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre et Colombe a hâte de retrouver les restos, nous dit son avocat. Jérémy Calfon, écoutez.
Elle est bénévole depuis 34 ans. Donc si vous voulez, les Restos du Cœur et Colombe, c'est une histoire qui dure. Si Colombe est bénévole, ce n'est pas pour l'ambiance avec ses co-bénévoles, mais bel et bien pour les bénéficiaires. On va se poser la question de l'accueil qui lui sera réservé à son retour. Mais le plus important, ce pourquoi elle fait ça, ce sont les bénéficiaires.
Voilà pour l'essentiel de l'information, c'est à vous Pascal.
Merci Chanel Housteau. Je peux vous poser une question ?
Oui.
Quelle est votre drogue préférée ?
Ma drogue préférée ?
Oui.
Le travail.
Ah, c'est bien. Bravo. Bonjour Charlotte Dornelas.
Bonjour Pascal.
Le bruit que vous préférez, celui que vous détestez ?
Alors, j'ai un problème avec les bruits, figurez-vous, vous tombez bien. Je n'aime pas les bruits, les petits bruits. Là, ça m'angoisse.
Bonjour Georges Fenech.
Bonjour Pascal.
Quel est votre mot préféré, votre juron favori?
Ah non, ça ne dirait pas ça. Non. Juron favori.
Votre mot préféré?
Le mot préféré, l'amour.
L'amour. Bonjour Jean-Claude Dacier.
Bonjour.
Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire?
Cheminot.
La bitumène.
Bonjour Gauthier Lebret.
Bonjour Pascal Proulx.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné?
L'animal, un lion.
Bonjour. Bonjour Joachim Le Floch. Imad, vous êtes essayiste, vous êtes enseignant. Bonjour, si Dieu Pascal. Existe, qu'aimeriez-vous l'entendre vous dire après votre mort?
Que j'ai bien vécu.
Bon, bah écoutez, c'est pas facile hein, ce questionnaire, mais vous l'avez compris, c'est le questionnaire de Bernard Pivot, on en parlera tout à l'heure. C'est vrai que c'est une génération dorée et que puissions-nous nous inspirer de ces gens de talent qui avaient quelque chose qui me touche moi, ils étaient populaires. Voilà, c'est ça qui est le mot peut-être qui les définit quand je dis passeur.
Et pourtant exigeant.
Exactement. Mmh. Mais comme finalement nos anciens maîtres.
Ah oui.
À l'école, mais
c'est
bon.
C'est pour ça que ça fonctionne. Mais on va je sais pas. Hein.
Oui, le problème, c'est qu'on va encore dire que c'était mieux avant.
Oui, ben oui.
Donc, ça allait jusqu'à 5 millions d'audience par semaine, l'émission Apostrophe. Ah oui. C'est incroyable.
Moi, je disais hier qu'il a été formidablement utile. On ne peut pas tous dire ça, quoi qu'on fasse.
Non, mais c'est vrai, vous avez parfaitement raison.
Il
avez parfaitement.
Quelque part.
Ah bah oui, c'est pas rien, et faire aimer les livres, la lecture, et
bien sûr.
Et décider les enfants, nos enfants,
bien sûr.
Nous-mêmes,
bien sûr.
À bouquiner un peu. Quand bien on voit aujourd'hui ce qui se passe, bon j'espère que le pessimisme ambiant ne l'emportera pas et que les choses vont s'arranger, mais à l'heure actuelle c'est assez préoccupant.
Bon, on en parlera, c'est promis tout à l'heure. Deux ou trois images que je voulais vous montrer pour commencer. Le gala du Met, avec le jardin du temps comme inspiration. Les célébrités ont déferlé hier au gala du Metropolitan Museum et l'incontournable événement de New York à la croisée de la mode, de la culture populaire et de la philanthropie. Le thème c'était les belles endormies et vous voyez Aya Nakamura. Parce qu'Aya Nakamura, je pense que tout le monde ne la connaît pas. Et notamment, comment dire, peut-être un public qui a passé 35, 40 ou 50 ans, peut-être qu'il est moins comment dire, à l'écoute et qu'il le connaît moins, Aya Nakamura. Bah, je voulais vous montrer ces quelques images. Il y avait d'ailleurs des règles à respecter. Hein. Ne pas utiliser son téléphone, être majeur, ne pas décliner l'invitation. Ça, on n'a pas le droit de décliner l'invitation à cette soirée. On n'a pas le droit de manger d'ail, d'oignon ou de persil et on n'a pas le droit de fumer à New York. Donc ces images, évidemment, elles m'ont amusé. Elles sont sans doute anecdotiques, mais moi j'aime bien les images parfois qui sont anecdotiques. Et on va écouter Aya Nakamura, parce qu'on dit anecdotique, mais elles font sens sur notre époque, forcément.
C'est mon premier Met. Moi, je suis fière quand même. Je suis très heureuse aujourd'hui d'être là. C'est la première fois, aux États-Unis. Donc, voilà. C'est une grosse fierté de venir au Met aujourd'hui. Et merci à David pour m'avoir invité. Très honorée. Très, très heureuse. Voilà.
Bon, je suis pas sûr que sur Europe 1 on ait parfaitement entendu ce que disait Aya Nakamura, mais c'était sous-titré pour l'antenne de CNews et elle était très heureuse, Aya Nakamura. Et puis c'est bien de faire connaissance peut-être avec elle, puisqu'elle va être présente lors de la cérémonie d'ouverture, comme vous le savez, et elle chantera sans doute avec d'autres. Avec d'autres, et c'est une bonne chose, c'est la jeune femme qui est la plus streamée au monde. Donc le seul talent, c'est de plaire. Et elle plaît, pour un artiste en tout cas. Vous êtes, Jean-Claude Dacier, vous regardez avec intérêt ces images. Ça, c'est Dja. Ça, c'est Dja. Parce que maintenant, j'ai appris à... Voilà, j'apprends par cœur Dja.
C'est bien.
Et moi, je trouve c'est bien. Je vous l'ai dit, je trouve que c'est pas mal.
Je vous ai vu dans le JDD, oui.
Faut changer le générique de l'émission.
Voilà, il y a quelque chose. D'abord, c'est joyeux. Et c'est pas rien d'être joyeux. Et tu joues avec les mots. Et voilà.
T'es passé de pivot au jeu de mots.
C'est ça la vie.
On est loin d'Edith Piaf là. Hein.
Mais on est loin, oui. On est loin de Berthe Sylvain. On est loin de Jacqueline Boyer. On est loin. Mais c'est la vie.
Ouais,
c'est
oui.
La vie. Vous savez, quand Johnny est arrivé dans les années 55-60, les gens cassaient des fauteuils. Et mon grand-père disait il se roule par terre et ça marche pas. Bon, Xi Jinping. Plus sérieusement, et c'est toujours bien d'ailleurs de voir les images d'arrivée. Et j'ai demandé à Marine Lançon, est-ce que
Vous pouvez nous montrer des images d'arrivée hier soir, des invités officiels. Alors, vous aviez Mireille Mathieu qui était là parce que c'est une immense vedette en Chine. Je précise que tout Paris était bloqué hier.
Ah oui.
Tout Paris. Alors, quand le président chinois est à Paris, il y avait des barrières partout. C'est un vrai problème d'ailleurs parce que il y a quelques. On parle parfois de déconnexion. Je peux vous dire que les gens, ils sont pas très contents. Ils pouvaient pas rentrer chez eux, les barrières. Mmh. Et je vous parle pas de ce qui se passe à la Mongie. Mmh. J'ai entendu aujourd'hui des gens qui disent ça va. Alors ça, c'est Jean-Michel Jarre qui est arrivé manifestement. Sophie Marceau, que vous reconnaissez, sublime, forcément sublime, qui était présente, bien sûr, Sophie Marceau. Et puis vous allez revoir des personnalités que chacun peut identifier et connaître, et notamment François-Henri Pinault. Avec Salma Hayek, qui était présent pour ce dîner d'État, Xi Jinping, hier soir, qui fait causer. On entendra peut-être tout à l'heure Raphaël Glucksmann. Et il y avait également présent Jack Lang, qui était présent avec son épouse, quoi qu'il arrive, toujours là, Monsieur Lang, pour ce grand dîner d'État, qui était servi avec les meilleurs vins et les meilleurs mets. Et puis je crois qu'on va terminer cette séquence avec... Luc Besson, que vous reconnaissez également. Et on n'a pas dû voir Bernard Arnault, qui était présent. Sophie Marceau, qui est là, bien sûr. Mireille Mathieu, le président, qui accueille Michel Jarre et qui accueille les uns et les autres. François Pinault, François-Henri Pinault. Alors, cette visite, parfois, fait réagir, forcément, et je vous propose peut-être d'écouter d'abord Emmanuel Macron, le président de la République.
Notre relation bilatérale se fonde, et c'est ce qui en fait la valeur et le succès, sur notre capacité à évoquer en toute confiance tous les sujets. Elle repose aussi sur une communauté d'ambition. La maîtrise de notre destin, la préservation de notre identité et notre amitié immémoriale n'a de sens que si elle prête main forte à l'humanité tout entière, dans la plénitude des tourments auxquels elle fait face, climatique comme géopolitique.
Bon, j'imagine qu'on ne peut pas parler précisément de tous les sujets avec Xi Jinping, on ne va pas lui dire. Voilà, j'imagine que c'est compliqué. Alors c'est toujours la même chose, est-ce qu'on doit recevoir tout le monde, est-ce qu'on doit parler avec tout le monde?
Oui, bien sûr, évidemment. C'est une visite d'État, président chinois, c'est pas tous les jours. Hein.
Et... Vous le qualifieriez comment? C'est un tyran, le président chinois?
Ah non, je dirais pas ça, non.
Vous diriez pas que c'est un tyran?
Non, je dirais pas que c'est un tyran. Non. Non, mais la Chine n'est pas exempte, évidemment, de fortes critiques, notamment, on sait, avec les Ouïghours.
C'est un dictateur?
C'est en train de se passer. Bah, de toute façon, c'est la dictature du parti unique, hein. Donc c'est le président
c'est
du parti.
C'est relativement tyrannique.
Bah, oui, il est un dictateur. Oui, mais c'est quoi un tyran? C'est quoi un tyran? C'est... L'étape au-dessus, c'est quoi?
Comment définir un tyran? C'est celui qui s'exonère de toute règle commune, universelle, et qui n'en fait qu'à sa tête. Là, il y a quand même un parti, il y a quand même des institutions.
Allez demander aux Hongkongais, aux Tibétains, c'est
pas demander... la démocratie au sens où on l'entend, bien entendu.
Allez demander peut-être, effectivement...
Oui. Après, à Hong Kong et au Tibet, on juge que...
J'ai pas cité Gongli, mais c'était Gongli, avec Jean-Michel Jarre, qui était là.
Après, c'est...
Non, mais c'est intéressant, c'est parce que c'est un régime dictatorial.
Bah, oui.
Bon, il y a 1,4 milliard de personnes. Comment tu peux tenir un pays sans un peu de fermeté en même temps, 1,4 milliard?
Enfin, l'Inde, il y a plus de monde.
Oui, bah l'Inde, c'est pas...
Xi Jinping est certainement pas un sociodémocrate. Après, la seule question qui doit être celle de notre classe dirigeante, c'est celle des intérêts de la France. On a quand même des intérêts commerciaux qui aujourd'hui sont bafoués avec la Chine, puisqu'on a 46 milliards de déficit commercial chaque année. Par ailleurs, la Chine pourrait être une puissance de médiation dans le conflit ukrainien. Donc je pense que la France a plus que jamais vocation à renouer avec sa vieille politique de médiation, sa politique de grandeur, qui était celle de Gaulle, et qu'on doit s'extirper de la tenaille du Sud global, de l'Occident collectif, qui est très dangereux.
Alors moi, il y a une image qui m'a choqué, disons-le, parce que je n'imagine pas le général de Gaulle recevoir Mao avec un représentant de l'Europe. Mais cette image, je la trouve ahurissante, pour vous dire. Je trouve que le président Macron, avec Xi Jinping et von der Leyen, c'est un symbole qui est envoyé. Alors, hier soir, notre plateau disait qu'au moins il est cohérent. Mais est-ce que cette image vous choque? Et est-ce qu'elle a un sens politique? Donc le président Macron et Madame von der Leyen qui est juste à côté avec cet échange. Alors on ne voit pas Madame von der Leyen, mais je pense qu'on l'a vu, la voici. Donc
pourquoi cette image choquerait?
Et parce que c'est une visite d'État de Xi Jinping. D'abord parce que Madame von der Leyen n'a pas été élue. Elle parle, je ne sais pas en quel nom, en tout cas pas le mien. et que j'ai voté européen. Pour le président de la République et pas pour Madame von der Leyen. Et que ses prises de position sur plein de sujets sont discutables.
Mais en même temps, elle a une position éminente au sein de la tête de l'Union européenne. Même si elle n'est pas élue. Elle est élue par les instances européennes. Elle n'est pas élue démocratiquement. Effectivement, mais moi, ça ne me choque pas qu'il y ait la Chine, l'Europe et la France. Pourquoi c'est choquant?
Il n'y avait pas l'Allemand. Il n'y avait pas M. Scholz qui, quelque part, est peut-être encore plus dérangeant. Mais c'est vrai que la présence de von der Leyen à l'Élysée pose quand même un certain nombre de questions. C'est la candidate de M. Macron. C'est elle qui veut voir reconduit à la tête de la Commission. En même temps, son bilan à Mme von der Leyen est quand même loin d'être totalement satisfaisant. L'Europe telle qu'elle est fortement critiquée un peu dans tous les pays d'Europe. On va voir ce qui va se passer. Maintenant, pour revenir à votre question, est-ce que le président de la République a eu raison de recevoir sur le mode amical le patron chinois? C'est une dictature, c'est une évidence. On voit même qu'il a mené la Chine dans une voie qui n'est pas la bonne. L'enfant unique est un désastre. L'économie chinoise va très mal. C'est plus la Chine d'il y a 15 ans. Donc son bilan à lui, Xi Jinping, n'est pas non plus exceptionnel. Néanmoins, il a mis la main sur le pays et personne ne moufte. On est bien obligé de lui parler si on veut sauver le cognac, ce qui semble avoir fonctionné assez bien. Pardon ?
La critique, c'est est-ce qu'il était obligé de l'emmener là où sa grand-mère l'a élevé,
non,
etc.
Je suis d'accord avec toi, le mode amical est peut-être de trop.
Non, mais faut penser un peu aux uns et aux autres. Quand on parle de déconnexion, les gens qui sont à la Mongie, mais ils se disent c'est un scandale, quoi.
Oui, mais ça le serait avec n'importe qui.
Là, c'est pas...
Et que vont se dire les Parisiens qui vont rester pendant les Jeux.
Oui, mais les Jeux, c'est une fois tous les 100 ans. Donc les Jeux, Jinping, c'est encore autre chose.
Les années non plus.
C'est Jinping à la Mongie.
À la Mongie, c'est pas non plus tous les 4 matins.
Oui, mais moi, il me semble quand même que les uns et les autres, il faut peut-être penser, il y a des gens qui n'ont pas travaillé, il y a des gens qui n'ont pas à l'école, il y a des gens...
Ah, il lui rend la politesse. Il a été reçu par Xi Jinping dans les lieux
de son enfance.
Il lui rend la politesse. Honnêtement, franchement...
Chirac avait fait pareil avec son prédécesseur.
Bon, oui, honnêtement, je ne suis pas très choqué, sauf par le système chinois, qui est absolument inacceptable, parce que c'est une dictature. Il est tatillon à un point qui fait peur, franchement, Xi Jinping. Voit l'état de la Chine aujourd'hui. Franchement, son traitement du Covid est une catastrophe, son traitement de la natalité est un désastre. Son bilan est une calamité.
Il y a de l'espionnage, François-Xavier Bellamy.
Xi Jinping. Xi Jinping, je vous ai trouvé bien modéré avec Xi Jinping.
Mais on va l'écouter.
J'ai pas dit ça, non, déformez pas mon propos. Je suis très critique à l'égard du Parti unique, du Parti communiste, du génocide ouïghour et tout ça. Mais en même temps, il y a la réelle politique. On a toujours discuté avec la Chine. Toujours, depuis le général de Gaulle, souvenez-vous, perfide, quand la Chine s'éveillera, etc. On a toujours eu des relations.
Xi Jinping, on l'écoute. Il était à l'Élysée. Écoutons-le.
Nous nous opposons à l'utilisation de la crise ukrainienne pour jeter la responsabilité sur d'autres, salir un pays tiers et déclencher une nouvelle guerre froide.
Oui, mais ça, c'est aux Américains, quand même. Oui, chez nous.
Oui, mais c'est important.
Ah oui, Non, mais c'est
révélateur pas sur la position aussi d'Emmanuel Macron.
Non, mais ça, on ne l'a pas découvert hier. Cela dit, il est un appui, en effet, du pouvoir russe, assez indiscutable. Oui. Il s'adresse là, en effet, aux Américains. Je rebondissais un peu par rapport à il y a la présence de Mme von der Leyen. Quand on parle du dossier ukrainien sur lequel s'investit beaucoup Emmanuel Macron, il s'adresse directement aux Américains depuis le salon d'Emmanuel Macron. Bon, tout est un peu révélateur de la place que nous avons pris. Et moi, je veux bien qu'on compare éternellement avec le général de Gaulle. C'est un modèle qui s'éloigne de plus en plus sur le terrain diplomatique.
Oui, mais parce qu'on a fait le choix de s'en éloigner.
Oui, bien sûr.
Xi Jinping et Emmanuel Macron sont donc attendus à la station de ski de la Mongie, où la haute sécurité de l'événement perturbe le quotidien des riverains et commerçants. Je crois que nous avons d'ailleurs une possibilité d'écouter. C'est un son qui a été récupéré par nos amis d'Europe 1. Écoutons.
Puisqu'on ne peut pas prendre la voiture, on ne peut pas rouler. Les personnes qu'on fait manger, qu'on fait chauffer des repas et tout ça, les amener aux toilettes, je ne sais pas comment on va faire. Hein. Ça va être un peu galère.
Nous, on dépend directement du flot touristique. S'il n'y a personne, eh ben on peut rester à la maison, on ferme, nous. Hein. On va sûrement avoir du manque à gagner. C'est toujours outrageant d'être pris pour partie négligeable, quoi. Voilà.
Ça s'entend, quoi. Moi, ça s'entend.
Mais surtout, ce qu'on découvre, parce qu'il y en a plusieurs qui ont parlé ce matin, en effet, qui disent, mais nous, on ne peut pas travailler, on ne peut pas vivre correctement ce matin. Et dans aucun, de ces témoignages, il y avait le côté, la compensation de la fierté de recevoir le président de la République. Ça, je pense que c'est très révélateur du lien qu'il y a aujourd'hui entre les Français et le pouvoir de manière générale. Il y a des époques où on se serait dit, bon, bah, pour une journée, pour la fierté d'avoir le président de la République qui se déplace et qui invite quelqu'un, eh bien, ça, c'est, je pense, la plus grande déconnexion. Et tout à l'heure, quand je vous disais, ce serait vrai avec n'importe qui, évidemment, le président chinois n'est pas n'importe qui par ailleurs, et nos discussions le prouvent. Simplement, aujourd'hui, n'importe quel ministre, et le président de la République en particulier, quand il se déplace, c'est verrouillé de partout. Ça, c'est nouveau.
Je vous propose d'écouter Raphaël Glucksmann, qui était ce matin sur, je crois, Radio Luxembourg et qui est intervenu sur le président Macron. Sur Xi Jinping.
A tenté cette diplomatie narcissique de « je flatte le tyran » avec Vladimir Poutine pendant 5 ans, le fort de Brégançon, souvenez-vous, le musée de l'Ermitage, les tues, les toits, l'amitié, la camaraderie, la célébration de la poésie. Et tout cela s'est conclu par quoi ? Par l'invasion de l'Ukraine et les menaces de plus en plus fortes sur nos démocraties, les ingérences dans nos démocraties. Moi, j'ai présidé la commission spéciale du Parlement européen sur les ingérences. Et je peux vous dire que Xi Jinping, l'homme qu'on reçoit en ami, c'est un homme qui a orchestré la déstabilisation de nos démocraties pendant la pandémie. C'est un homme qui essaye d'acheter des dirigeants français pour promouvoir les intérêts chinois. C'est un homme qui orchestre des attaques de hackers, le groupe APT31 qui menace, qui attaque directement nos industries stratégiques. Et c'est l'homme surtout. Pour les Français, c'est l'homme qui a comme stratégie de ratiboiser notre production.
Bon, c'est entendu, mais lui-même a travaillé avec le président de la Géorgie.
Ouais, oui.
Donc on peut aussi lui rappeler à M. Glucksmann, je veux bien qu'il donne des leçons, mais il a travaillé avec le président de la Géorgie, il a été payé par le président de la Géorgie.
Dans quel monde croit-il vivre ? Heureusement qu'il n'est pas candidat à être chef d'État, parce que franchement, il n'a pas les épaules pour le moment. Ça viendra peut-être avec l'âge.
Si on parle qu'avec les pays qui sont des démocraties libérales, on se prive de parler à 3/4 de la planète.
Bien sûr.
Ce n'est plus une question d'âge, Jean-Claude, pour avoir les épaules.
Peut-être.
Vous avez vu le renouvellement.
Oui, j'ai vu ça.
Par ailleurs, il travaille activement avec Mme von der Leyen, qui n'est pas exactement tenante d'un modèle démocratique.
Non, mais il se dispute un électorat pour les européennes avec Valérie Hayé, qui d'ailleurs a eu des mots très durs aussi à l'encontre de la politique chinoise vis-à-vis des Ouïghours.
Vous savez que Xi, c'est le nom.
Oui.
Et Jinping, c'est le prénom.
Ah oui.
Eh oui.
Oui.
Sauf erreur de ma part, je ne suis pas très doué en langue orientale.
Mais fait chinois en troisième langue.
Non, oui.
Bon.
Et puis. Antimonier, d'ailleurs.
Oui, bien sûr. Et quelqu'un qui me... parce que je cite moins les rapports, les réseaux sociaux. Quelqu'un qui dit « Calmez-vous, l'ampleur et la rapidité des progrès effectués par la Chine depuis 40 ans sont uniques dans l'histoire de l'humanité.
Ouais. » Oui, c'est pas faux, mais bon, là, ça s'enraye un peu tout de même. Bon. Il est obligé de le reconnaître, notre interlocuteur.
Ça sera la première puissance mondiale dans peu de temps.
Je suis pas sûr.
Ce que prévoyait d'ailleurs de Gaulle au moment de parler aussi.
Je crois que l'Amérique a de la ressource. Le dernier mot n'est pas dit.
Un dernier mot d'Emmanuel Macron avant d'être avec Thomas Hill dans une seconde. Emmanuel Macron.
Nous respectons les liens anciens qui unissent la Chine à la Russie, ainsi que les efforts qui ont été déployés pendant des décennies pour stabiliser cette relation. Au vu de cette histoire complexe, nous accueillons favorablement les engagements des autorités chinoises à s'abstenir de vendre toute arme ou toute aide à Moscou et à contrôler strictement l'exportation des biens à double usage. C'était ce que vous m'aviez dit très clairement, Monsieur le Président, il y a un peu plus d'un an, ce que vous avez réitéré. Et je crois que la longueur, la qualité de nos échanges sur ce sujet sont une source de réconfort.
Voilà ce qu'on pouvait dire dans cette première partie sur la visite d'État de Xi Jinping. On va recevoir dans une seconde Gilles William Golnadel, qui était déjà venu nous parler de son livre, mais qui... a souhaité revenir avec lui sur ce livre qui est extrêmement important, Journal de guerre. Mais avant cela, on va dire bonjour à notre ami Thomas Hill et le saluer et lui souhaiter une bonne émission. Bonjour Thomas.
Bonjour à tous.
Merci d'être avec nous et bonne émission jusqu'à 11h sur Europe 1.
Et dans quelques minutes, c'est Culture.
Et nous allons marquer une pause et puisque nous sommes sur CNews toujours. Et nous parlerons donc du Hamas, bien évidemment, avec la proposition de cesser le feu. On pourra écouter Elisabeth Badinter sur le rôle des hommes et des femmes dans le privé, dans les tâches quotidiennes
Je ne doute pas que Jean-Claude Dacier pourra nous éclairer sur un sujet qu'il connaît bien, sur la répartition dans les couples. On pourra parler du Molière d'honneur de Francis Huster et puis de l'intervention de Sophie Aram également hier. Et puis de Bernard Pivot, parce que nous l'avons dit, c'est quelqu'un qui aura fortement marqué les années Pivot.
Et Gabriel Attal au dîner du CRIF aussi, ça y est, il entre en campagne. Il attaque le Rassemblement National et la France Insoumise.
Oui.
Et Jordan Bardella.
Et il les renvoie dos à dos, je ne sais pas si c'est...
Il n'a pas tout à fait utilisé les mêmes mots. Il utilise le mot « honte » pour la France Insoumise. Pour Bardella, c'est plus politique. C'est une demande d'Emmanuel Macron qu'il entre dans l'arène.
Oui, de reprocher à Jordan Bardella qu'il ne s'est pas exprimé un jour sur une question. La seule chose qu'ils ont à lui dire, c'est on lui a posé un jour une question sur Jean-Marie Le Pen, il n'a pas su répondre.
Ah, ils vont s'en servir jusqu'à la fin de la campagne.
Et il est antisémite pour ça. Bon,
en tout cas, les Français,
je trouve que c'est un peu juste.
Les Français si juifs ne les renvoient pas de dos.
Oui, exactement. Les Français juifs, ils votent Rassemblement National souvent et parfois Reconquête aussi.
Je suis étonné, Pascal, vous n'avez pas parlé de l'événement du jour quand même.
C'est
ce soir.
C'est votre anniversaire?
Borussia,
le Paris Saint-Germain.
Ça n'a pas échappé quand même.
Mais non, bien sûr, mais on va en parler.
Demi-finale.
Mais vous avez raison. On va en parler.
Et Marseille, non? Ah non,
comment? Même moi, je sais, j'en
connais. Non, mais c'est match retour. Vous avez parfaitement raison. C'est sur Canal.
Vous avez fait un pronostic.
Oui, je pense que le PSG va gagner, je l'espère surtout. En finale, bien sûr, mais on en parlera. Vous avez raison. À tout de suite.
Moins une. On est à l'antenne, moins une.
Tout va bien, mais on est un petit peu en avance ce matin, d'habitude.
On est en mal retard. De vous.
Il est 9h. Et qu'est-ce que vous faites là, vous?
Vous m'avez supplié de venir.
D'habitude, vous êtes là le soir. Il n'est pas 20h.
Je serai là aussi ce soir.
Ah oui?
Mais bien sûr.
Bon, et vous serez aussi chez Laurence? Vous serez toute la journée? Vous voulez être avec nous?
Absolument.
Bon. Ça va être une grande journée d'audience alors.
Sérieusement, j'ironise, mais je ne devrais pas, parce que je sais combien... Depuis le 7 octobre, votre vie a changé et combien elle a changé pour tous les Juifs français. Et que cette période-là, il y aura un avant et un après. Et vous n'êtes plus le même.
Non.
Et vous êtes d'une tristesse, d'une inquiétude folle sur ce monde et sur la situation en Israël. Donc on va en parler dans une seconde, mais on rappelle les titres avec Somaïa Labidi.
Israël a pris le contrôle du point de passage de Rafah et poursuit ses bombardements sur la ville avant de nouveau pourparler au Caire pour tenter d'infléchir un accord de trêve. Accord validé par le Hamas, reste maintenant à savoir la décision du gouvernement Netanyahou. 8 mois d'emprisonnement avec sursis pour le chauffeur de taxi qui a refusé de prendre en charge et proféré des menaces antisémites contre une famille à Orly. En octobre dernier, condamnation au même moment où les actes antisémites continuent d'exploser en France avec 300% d'augmentation sur le premier trimestre 2024. Et puis Cocorico, c'est le premier Français à décrocher cette récompense. Victor Wembanyama a été désigné rookie de l'année, distinction remise au meilleur joueur disputant sa première année dans la Ligue de basketball américain. C'est donc une première saison convaincante en NBA pour le prodige tricolore.
Journal de guerre, c'est l'Occident qu'on assassine. Gilles William Golnadel est avec nous et on pourra revenir sur ce livre. Mais d'abord l'actualité avec le Hamas qui accepte une trêve après des semaines de négociations et de contre-propositions. Le Hamas dit avoir approuvé la proposition de cesser le feu présentée par l'Égypte et le Qatar en vue d'une trêve avec Israël. Je vous propose de voir le sujet de Maxime Le Guay.
Israël accentue la pression sur le Hamas. L'État hébreu a pris le contrôle du côté gazaoui du point de passage de Rafah avec l'Égypte tôt ce matin. Une nouvelle démonstration de force avec de nombreux blindés à quelques heures d'une nouvelle réunion déterminante entre Israël et le Hamas pour parvenir à une trêve. Hier, après plusieurs heures de négociations avec les pays médiateurs, l'organisation terroriste a accepté un cessez-le-feu durable avec ses propres conditions, à savoir un retrait militaire total, un cessez-le-feu permanent ainsi qu'un échange entre otages et prisonniers palestiniens. Une proposition loin des exigences israéliennes selon le cabinet de Benjamin Netanyahou.
Nous examinons chaque réponse très sérieusement et prenons en compte toutes les possibilités de négociation et de retour des otages dans leur foyer le plus rapidement possible, ce qui constitue une tâche essentielle. Dans le même temps, nous poursuivons nos opérations dans la bande de Gaza et continuerons à le faire.
En attendant, Israël continue de bombarder la ville de Rafah où plus d'un million de Palestiniens ont trouvé refuge. À la demande de l'État hébreu, ils sont des dizaines de milliers à quitter la zone pour se mettre à l'abri.
N'est pas sur cette position de demande du Hamas.
Écoutez, le but d'Israël dans ses pourparlers, c'est d'obtenir les otages.
Si tant est qu'ils soient vivants.
En tous les cas, ceux qui sont encore vivants, qui n'ont pas été tués par le Hamas. Israël est d'accord pour une trêve, mais certainement pas pour la fin des hostilités tant que le Hamas sera à Gaza. Donc il semblerait, d'après les Israéliens qu'hier, le Hamas ait fait un petit peu de politique en laissant à penser qu'il était d'accord pour tenter de nuire à l'opération à Rafah. Mais pour l'instant, on est plutôt dans le cadre de la poudre aux yeux. Si jamais l'enjeu, c'est les otages contre un certain nombre de détenus palestiniens en Israël. C'est ça l'enjeu. Mais on l'oublie beaucoup en France, les otages.
Est-ce que vous pensez que Benjamin Netanyahou est prêt à libérer des otages palestiniens qui sont dans les prisons israéliennes depuis de nombreuses années ?
Il n'y a pas de doute. Il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est le nombre et la qualité de ces otages, des détenus, si j'ose dire. Mais il y a déjà eu, il y a quelques mois, un échange otages contre détenus. Il y a le principe, même si...
Est-ce que vous pensez que les Israéliens doivent entrer dans Rafah ?
Ah, je pense que les Israéliens, effectivement, ne peuvent pas ne pas rentrer à Rafah pour pouvoir liquider les Palestiniens du Hamas qui y restent. Je ne vois pas comment on peut ne pas faire l'économie de cette guerre qui est évidemment coûteuse pour beaucoup de monde. Mais ça s'appelle la guerre.
Monsieur Dacier, monsieur Fenech.
Bon, moi, j'ai peur que ce soit fait une guerre difficile, voire impossible à gagner, mais je n'ai pas de doute sur la volonté de Netanyahou de tout mettre en œuvre et donc de continuer sa pression militaire sur Gaza pour essayer d'éliminer, à mesure du possible, les représentants du Hamas, ou en tout cas de réduire à néant la force de frappe. Les brigades, je ne sais pas si ça correspond à quelque chose de réel, mais qui sont au service du bras armé du Hamas. C'est une affaire compliquée parce que l'opinion internationale donne tort à Israël. L'Amérique est saisie d'un doute sans précédent, même en France. Bon, en France, c'est quelques dizaines. Ça ne va pas très loin. Mais il y a des actes antisémites violents, comme on l'a rappelé hier soir.
Quelques dizaines plus 300%.
Hein. Oui, mais le pourcentage, méfions-nous, qui les commet, c'est la question, et pourquoi. Donc on est dans une situation géopolitique extrêmement compliquée, et je ne sais pas comment ça se terminera. Je pense qu'on a encore devant nous un long chapitre de guerre, en dépit des souffrances des Gazaouis, parce que pour eux, quand même, il faut y revenir, et les otages, et les Gazaouis, sont dans une situation effroyable.
La difficulté, c'est que ceux qui sont aujourd'hui en Israël et qui sont détenus dans les prisons palestiniennes sont des terroristes, alors que ceux qui sont dans les tunnels de Gaza sont des otages.
Oui, mais c'est le prix à payer.
Oui. Ah oui, mais
c'est important quand même de le souligner.
J'emploierai pas le mot otage en Israël. Ce sont des détenus.
Je ne crois pas l'avoir entendu. Si,
non.
J'ai dit
des otages.
Alors si j'ai
un lapsus.
Voilà,
non,
je l'ai dit. Lapsus,
mais ce sont des.
Mais vous avez raison, Georges.
Qui ont été condamnés par les juridictions militaires.
Vous avez parfaitement raison,
voilà,
Georges.
C'est pour ça. D'ailleurs, Gilles William l'a repris aussi.
Oui, vous avez parfaitement raison de le préciser. Vous étiez au dîner du CRIF hier soir ?
Non, ça fait 10 ans au moins que je n'ai pas mis un pied au CRIF.
Pourquoi ?
Parce que je suis en litige avec la vision du CRIF depuis des années, depuis au moins une décennie. Le CRIF a considéré assez sottement que le danger pour les juifs français, c'était l'extrême droite. Ce qui est un fantasme total. Et moi, je m'égosillais à dire, de manière assez pénible et ingrate, que le danger, c'était l'alliance entre l'extrême gauche et l'islamisme. Ce qui fait comme conséquence, en dehors de cette faute morale, c'est que le CRIF qui bénéficiait, il y a encore quelques années, d'un semblant de représentativité, surtout d'un magistère moral et intellectuel non négligeable, a facilité l'immigration massive et invasive au grand détriment des Français en général et des Juifs français en particulier. Pardon, mais ça, je ne suis pas prêt d'oublier ça. Et aujourd'hui...
Aujourd'hui, j'ai l'impression que le CRIF a...
Alors,
module... Alors, la position, M. Yonatan Arfi, est sur une ligne différente ?
Oui, le CRIF...
Et Gilles Taïeb qui est décédé, était lui sur une ligne
Gilles
différente.
Gilles était sur une ligne très différente.
Qui était vice-président.
Était vice-président, mais bon, c'est pas la démocratie. Bon, peu importe ça. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est vrai que, à cause du choc des réalités, le CRIF a fini par comprendre un peu tard le danger, le péril de l'extrême gauche insoumise alliée au pire islamiste, mais il continue de renvoyer dos à dos assez niaisement ce qu'il appelle l'extrême droite avec ce que j'appelle l'extrême gauche.
Et c'est ce qu'a fait Gabriel Attal. Alors c'est ce qu'a fait Gabriel Attal hier soir. Je pense que personne n'est dupe, effectivement, parce que...
Il est en campagne.
Oui, mais je ne suis pas sûr que...
C'est délicat quand même, dans la campagne électorale, dans la situation qu'on connaît. Oui. Compliqué, quand même.
Les actes antisémites viennent effectivement de l'extrême gauche et pas de la droite, me semble-t-il. Enfin, c'est pas me semble-t-il, d'ailleurs, c'est une réalité. Écoutez ce que disait hier Gabriel Attal, il était au dîner du CRIF.
J'ai souvent eu honte ces derniers temps. Honte en entendant certains, toujours les mêmes, jusqu'à l'Assemblée nationale, trouver des excuses et relativiser le drame. Honte en écoutant certains élus de la France insoumise parler de mouvements de résistance. Honte en voyant le leader de la France insoumise agiter les haines, commettre les sous-entendus les plus indignes. Oui, oui, il devrait avoir honte de n'avoir jamais un mot pour les victimes du 7 octobre. Parce que le présent, c'est un député du Rassemblement national qui tenait jadis une librairie négationniste baptisée en hommage à un livre de Charles Maurras. Ce député siège aujourd'hui dans le groupe du Rassemblement national à l'Assemblée nationale. Parce que le présent, c'est aussi l'état-major de ce parti qui a besoin de plusieurs jours pour trancher la question de savoir si Jean-Marie Le Pen était ou non antisémite.
En fait, il n'est pas très sérieux, Gabriel Attal. Mmh. Parce que parler d'un député qui aurait une librairie, et dans ce librairie, il y aurait un livre de Charles Maurras, et parce qu'il y aurait un livre...
C'est le nom de la librairie. Non, mais... C'est le nom de la librairie. Et qui vendait des livres négationnistes. Alors, il s'en défend, le député.
Vous ne pouvez pas comparer, évidemment, vous ne pouvez pas comparer. En fait, il veut renvoyer dos à dos l'extrême gauche et ce qu'il appelle l'extrême droite. Et à mon avis, personne en France
n'est dupe. S'il y a une autorité morale sur cette question-là, c'est quand même Serge Karlsfern.
Oui, en plus.
Qui a dit très clairement, le Rassemblement national n'est pas... Donc je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte.
C'est le logiciel des années 80-90, à mon avis, qui est plus valable. En revanche, je voudrais qu'on écoute Sophie Aram, hier soir, ça vous a peut-être surpris. Ce que vous parliez, on parle peu des otages israéliens en France.
Ça ne m'a pas surpris.
Bon. Et Sophie Aram a pris la parole au Molière, elle a gagné d'ailleurs un Molière, et elle a eu des mots, précisément, que ce monde culturel n'a jamais.
Nous qui partageons la liberté de pousser un cri sur toutes les scènes de France ou de hurler nos indignations sur tout et n'importe quoi dans des tribunes dont la plupart sont co-signées par Annie Ernaux, je pense que nous devrions aussi faire attention à nos silences. Car voyez-vous, dans le brouhaha de nos indignations faciles, le silence, même relatif, après ce 7 octobre, dans lequel 1200 Israéliens ont été massacrés, est assourdissant. Et s'il est évident que nous partageons tous ici les appels au cessez-le-feu, comment être solidaire des milliers de civils morts à Gaza sans être aussi solidaire des victimes israéliennes ? De cesser le feu sans exiger la libération des otages israéliens. Comment réclamer le départ de Netanyahou sans réclamer celui du Hamas ? Ce silence qui accompagne les victimes du 7 octobre et les otages continue de nous diviser et de blesser tous ceux, juifs ou non, qui sont attachés aux droits humains.
Je peux dire un mot là ?
Je vous en prie.
Dans mon livre, d'ailleurs, je rends hommage déjà à Sophie Aram, avec laquelle, d'ailleurs, j'avais des rapports très distendus, pour parler poliment. Elle sauverait l'honneur de l'audiovisuel public s'il en avait encore un. Ce matin, on évoque le Molière de Sophie Aram sur France Inter. On ne dit pas un mot. On ne dit pas un mot sur ce qu'elle vient de dire. la réalité. On verse des larmes de sauriens sur l'antisémitisme croissant, mais je suis désolé de dire, c'est France Inter qui s'est fait taper sur les doigts par l'ARCOM pour reprendre, comme s'il s'agissait du journal officiel, les bilans du Hamas. Ce sont les humoristes qui ricanent la bouche en coin à gauche, qui comparent un juif circoncis avec un nazi. Ce sont des ONG gauchisantes qu'on fait venir à l'antenne, n'est-ce pas, pour expliquer que Gaza, c'est le ghetto de Varsovie. Mais alors qu'on ne vienne pas pleurer sur l'antisémitisme.
Alors, moi, je suis d'accord avec vous. C'est une conversation que j'ai souvent avec Jean-Claude Dacier. Je lui reproche d'avoir un logiciel des années 80, 90 ou 2000. Je lui dis aujourd'hui, l'espace médiatique, c'est un sujet. C'est un sujet parce que le service public, c'est France Inter et c'est un sujet. Et effectivement, je peux comprendre d'ailleurs la position de Jean-Claude qui me dit « Attention, ce sont des médias, ce sont des journalistes. » Et traditionnellement, dans ce logiciel ancien, on ne s'attaquait pas entre journalistes ou on ne soulignait pas. Bon, il se trouve que CNews aujourd'hui est fortement attaqué, et ce qui aussi permet une réponse. Mais les temps ont changé, il y a une polarisation, même dans ce milieu médiatique et journalistique. Et l'exemple que cite Gilles William est sidérant.
Moi, je
il
suis
est
pour
sidérant.
Le combat des idées et non,
mais
je pense
oui, mais Jean-Claude,
que...
on fait quoi quand
eh bien,
France Inter...
on défend ce à quoi nous pensons.
Mais, oui, mais France Inter, doit souligner que France Inter ne...
Je m'en fous de France Inter, j'ai commencé ma carrière là-bas, ça m'est totalement indifférent. Ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on va dire, nous, du dossier, celui-ci, comme beaucoup d'autres, et surtout de ne pas... Mais bon, on ne va pas reprendre ce débat que nous avons tous les deux.
Oui, mais c'est intéressant.
Depuis longtemps.
Non, mais Jean-Claude, c'est
mais
intéressant.
Mais ça ne sert à rien d'attaquer les uns ou les autres intuitifs personnés. Ce qui m'intéresse, c'est le combat des idées.
Mais c'est... pardonnez-moi, ce n'est pas intuitif personné. C'est de souligner qu'une radio de service public ce matin ne fait pas son travail.
Ah oui, parce que vous pensez que la radio de service public, par définition, est quelque chose qui devrait être inattaquable. Mais c'est de la plaisanterie, une radio de service public. Je l'ai toujours pensé. Et j'y ai travaillé depuis longtemps. Les services les politiques, en fonction des résultats, faisaient que les directeurs et les responsables des radios de service public changeaient tous les ans, tous les deux ans, tous les cinq ans. Quand je suis arrivé, les gaullistes arrivaient par vagues dans les radios de service public. Arrêtons de penser que, par définition, une radio de service public devrait être... Mais non, jamais ils ne l'ont été.
Journal de guerre, vous écrivez, le prototype le plus parfait et dangereux du philo-sémite d'extrême gauche déçu s'appelle Edouard Plenel, pour ceux qui improbablement l'ignoreraient. Plenel Edoui, alias Joseph Krasny, a joué publiquement dans la revue Rouge du massacre des athlètes israéliens à Munich en 72. Il aura façonné toute une génération de journalistes militants brillants, davantage par le conformisme que par l'esprit critique. Et ça rejoint ce que nous disons là.
Oui, ben, le drame, c'est qu'il y a eu une plénélisation de l'idéologie médiatique. C'est-à-dire que quand je parle de philosémite déçu, c'est quand même dans la catégorie quand même plus large de l'antisémitisme, au moins inconscient. C'est quelqu'un qui a pour qui aime beaucoup le juif en pyjama rayé. C'est-à-dire de manière un peu post-christique, celui qui ne rit jamais, qui ne se défend pas, mais celui qui adore le juif en pyjama rayé l'abhorre en uniforme kaki. C'est celui qui se défend et qui parfois même tue. Et pour Plenel, d'une certaine manière, le juif israélien en uniforme, c'est Judas en Galilée. Il a un amour déçu pour le juif christique en pyjama rayé.
Vous accepteriez de débattre, par exemple, avec lui? Vous acceptez de débattre avec tout le monde?
J'accepte par principe de débattre avec qui que ce soit dès l'instant où je sais qu'il ne va pas me tuer. Donc oui, je débattrai
mais
avec Edouard.
Vous avez
Plenel.
Remarqué que ces gens-là n'acceptent pas beaucoup le débat. Ils ne le
recherchent pas beaucoup, c'est vrai.
Je ne retiendrai plus jamais mes coups contre les islamo-gauchistes ou les islamo-wokistes, écrivez-vous. Je présente Mélenchon comme le porte-parole du Hamas. J'explique sans crainte d'un procès issu du privilège rouge ou noir qu'Obono est une raciste et antisémite qui est l'ami de l'anti-juive et anti-blanc assumé Ouria Boudjelda. Boutelja, qu'elle a accueilli l'antisémite labellisé Corbyn, qui se dit l'ami du Hamas à Paris et considère les découpeurs d'enfants comme un groupe de résistance.
Oui, mais enfin, vous savez, maintenant, ils portent l'étiquette antisémite avec une certaine aisance. Ils ont franchi le Rubicon. C'est tout. Je ne sais pas dans quel but, si c'est pour le grand soir. Sur la période, je ne suis pas un grand spécialiste, mais la perspective électoraliste ne me paraît pas très riante pour eux. Donc je pense qu'ils rêvent un jour, Je ne sais pas, hein, mais je pense qu'il rêve un jour d'une grande union dans la rue entre les Antifa et puis... Et
Plenel, puis, et, ouais. Souvenez-vous de l'affaire de Toulouse, enfin.
Il l'affaire était Toulouse, c'est l'affaire Allègre.
Il était patron du Allègre. Monde à l'époque. Il a déshonoré son journal et on fait encore aujourd'hui attention à ce que dit Plenel. On s'en fout, mais complètement.
Mais non, mais vous en parlez. Non, mais pardon.
Vous avez tort, Jean-Claude, parce que les jeunes journalistes, ils s'en fichent pas.
Je sais depuis longtemps que ce type écrit n'importe quoi quand ça l'arrange.
Oui, mais son influence.
Toute la jeune génération.
En fait, on ne peut pas s'en foutre.
Bah non, il fait des ministres, il défait les ministres.
Voilà, on vous parlez, il défait les ministres. Il l'a fait. Et encore, même François Mitterrand l'a traité d'agent de la CIA. Vous parlez.
On ne peut pas s'en fiche, si vous me permettez.
Oui, enfin, bon, pour moi, c'est pas. La vie politique française ne tourne pas autour des Louis Plenel.
Dans le monde universitaire, Mediapart, un journal de référence.
Chacun son sentiment.
Mais vous sous-estimez l'influence, il a raison, dans le monde universitaire duquel vous venez. Évidemment. Vous sous-estimez ça, Jean-Claude. C'est une conversation qu'on a sans arrêt ensemble. Joachim Le Floch, il m'a
donné. Oui, non, mais je suis tout à fait d'accord avec vous sur le manque de pluralisme et la lâcheté d'une large partie du monde médiatique. Maintenant, il y a une forme d'inconséquence aussi chez des gens comme Sophia Aram ou Okrif, par exemple, qui ne parlent jamais de la question migratoire, qui, selon moi, est un des carburants majeurs de l'antisémitisme aujourd'hui. C'est évidemment, tous les musulmans ne sont pas islamistes et antisémites, mais il y a quand même une judaïsation, comme l'a montré Taguieff, une islamisation de l'antisémitisme, comme l'a montré Taguieff. Et j'ai regardé avant de venir les chiffres de l'Observatoire de l'immigration et la démographie qui montrent que sur les 320 000 titres de séjour qu'on octroie chaque année, 72% vont à des ressortissants de pays musulmans. Donc ça pose quand même des questions qu'on devrait avoir le droit de mettre sur la table.
On devrait regarder de beaucoup plus près que ce qu'on a fait depuis 20 ans. Hélas, on en paye aujourd'hui le prix, il est élevé.
L'université, on en parle avec ce professeur à Sciences Po qui trouve légitime les manifestations à Sciences Po précisément et qui de ce fait a décalé. Le retour des examens.
Oui, de deux jours, je crois, la date de rendu des.
Vous voyez
des
le sujet de Michael Dos Santos, parce que ça aussi, c'est à la fois anecdotique, bien sûr, mais ça montre un état d'esprit de nos universités. Regardez.
Dans un mail envoyé vendredi dernier à des élèves de master, une enseignante accorde un délai supplémentaire pour le rendu d'un devoir. Pour justifier sa décision, elle évoque le mouvement pro-palestinien, mené pourtant par une poignée d'étudiants.
Considérant les mobilisations en solidarité avec la Palestine légitime et les défis de maintenir un environnement d'apprentissage apaisé pour la fin du semestre, nous avons décidé de prolonger la date de rendu de deux jours.
Une mobilisation qu'elle qualifie de légitime, un terme employé qui pose question. La charte de déontologie de Sciences Po invite les professeurs à une certaine mesure.
Les titulaires de fonctions au sein de l'Institut d'études politiques de Paris bénéficient de la liberté d'opinion. Ils veillent toutefois à ce que leurs opinions n'altèrent pas l'exercice de leurs fonctions.
Pour ce syndicat étudiant, aucun doute, le parti pris de cette enseignante est intolérable.
La professeure a fait un choix différent, c'est-à-dire de donner de but en blanc son avis, alors même que certains étudiants ne sont pas forcément d'abord d'accord et puis ensuite subissent en réalité ce qu'elle considère être légitime. Ce n'est que le symbole de ce qui se passe de manière générale dans certaines universités et aussi à Sciences Po et que l'UNI dénonce depuis longtemps, c'est-à-dire la présence de l'extrême gauche jusque les sphères hautes de certaines universités.
Agacés par la teneur de ce mail, certains parlementaires du groupe Renaissance ont contacté la direction pour exiger des explications. Pour le moment, Sciences Po ne s'est pas exprimé sur le sujet.
Elle a un sentiment légitime d'impunité. Dès l'instant où vous avez une direction qui a suspendu les sanctions contre les contrevenants et qui accepte de dialoguer dans le cadre d'un town hall, c'est extraordinaire l'anglicisme qui montre l'entrisme du wokisme dans les universités, qui accepte de parler justement d'éventuellement de rompre avec les entreprises israéliennes. Elle s'estime dans son droit, même si elle le piétine.
Gilles William, je disais en début, quand vous êtes arrivé, que votre vie n'est plus jamais pareille. Vous avez de la famille en Israël.
Oui,
vos enfants sont en Israël. Vous étiez l'autre jour d'ailleurs présent lorsqu'il y a eu l'attaque.
Oui, les missiles. Oui.
Comment cette période-là, vous imaginez qu'elle puisse finir et comment vous-même puissiez retrouver un certain état d'esprit qui était le vôtre avant le 7 octobre.
Je pense que je ne le retrouverai pas. J'explique dans mon livre que je n'imaginais pas que je connaîtrais ce que mes parents, d'une certaine manière, ont connu. Je pensais que j'étais... Et Dieu sait si je ne me caractérise pas par l'optimisme. Donc je l'ai vécu tour à tour comme une humiliation, comme une... une terrible tristesse, comme une trahison de certains. Voilà, mais je n'ai plus aucune espérance de revenir au statu quo ante. Il n'y a pas d'autre. Mais de dire que je suis aussi affligé par la situation en France que par la situation en Israël.
Est-ce que le juif que vous êtes pense qu'il faut mieux vivre aujourd'hui en Israël qu'en France ?
Alors c'est vraiment une question à laquelle je ne saurais répondre. Je pensais effectivement, il y a encore avant le 7 octobre, que la situation tout de même en France était moins dangereuse. Au-delà de mes propres opinions, moi je ne pourrais pas actuellement, je pensais ne pas pouvoir vivre autre part qu'en France pour défendre la France et les Français. Je me sentais utile en France pour la France et les Français. Aujourd'hui, je ne pourrais pas donner un conseil aux Juifs français, mais je vivrais très mal en même temps qu'ils abandonnent la France. C'est quand même un dilemme.
Vous serez avec nous ce soir, c'est l'Occident qu'on assassine. Merci, je voulais vraiment qu'on revienne sur ce livre. Et puis c'est vrai qu'on a, avec vous, au-delà des différences qu'on peut avoir le soir et des échanges qu'on peut avoir... Oui. C'est vrai qu'on a beaucoup d'amitié, de tendresse pour vous et pour cette période que vous vivez.
Et encore davantage, comme je l'écris sur vous depuis le 7 octobre.
En tout cas, ce livre est un succès.
Oui.
Et ça, c'est important.
Oui.
Vous êtes une personnalité importante dans la vie médiatique aujourd'hui en France. Et je pense que les gens, naturellement, viennent vous voir dans la rue et vous apportent leur soutien. Et c'est peut-être ça qui est une cause de réconfort.
Ah, je l'écris. Je me suis jamais senti aussi moins seul en France... avec les Français de tous origines que depuis le 7 octobre.
Ben, y a un peu d'optimisme à conserver alors.
Mais la sympathie que je ressens, mais elle n'est pas pour autant très efficace, y compris pour les Français eux-mêmes. L'une des bases de mon livre, c'est d'expliquer que tous les Français, juifs ou non, sont dans le même bateau par rapport au danger de l'islamisme et de l'immigration invasive.
C'est aussi pour ça qu'il y a ce rapprochement, je pense, qui a existé. Et je vous remercie grandement. Vous serez là ce soir quand même.
Oui, mais bien entendu.
Et d'ici là, vous allez travailler un petit peu.
Je
rappelle que vous êtes avocat.
J'ai désactivé annexe, figurez-vous. Bon. Mes journées, je peux vous dire, sont bien remplies. Je ne m'en plains pas, mais elles sont bien remplies. Je ne souffre pas d'un cruel désœuvrement.
Bon, écoutez, merci. J'allais dire merci d'être vous.
Merci.
Et surtout, merci d'être avec nous le soir parce que vous êtes effectivement une voix importante sur cette antenne.
Merci.
On va marquer une pause. Et alors, vous connaissez notre émission qui permet de changer d'un sujet à un autre. On va être avec Anne-Sophie Jean ou Jeanne qui a écrit Les derniers jours de Johnny, ce qui est assez intéressant. Il y a encore des révélations. Et puis, on parlera, je l'ai dit tout à l'heure, de sujets. Peut-être plus léger, comme la répartition des tâches dans les couples. Vous, par exemple, qui êtes un jeune couple, comment ça se passe ? Est-ce que c'est vous qui faites la cuisine ?
Ah non, je ne fais pas à manger.
Bon.
Je fais très mal à manger. Donc
c'est normal.
Je fais les lessives, je suspends le linge, je passe l'aspirateur.
Vous faites les lessives, attends, ça c'est drôle. Vous mettez, vous trouvez que c'est un travail, ça.
Non, mais c'est chiant quand même.
Bah, c'est oui. Vous le faites, vous ? Moi, je n'ai pas tout au pressing, contrairement à vous.
Non, mais de mettre des piloges dans la machine, c'est pas très compliqué quand même comme ménage. Excusez-moi.
Je fais les courses. Vous faites les courses ?
Je fais les courses.
Non, vous ne faites jamais les courses.
Je fais les courses.
Vous allez dîner au restaurant tous les soirs.
Je fais les courses à Auteuil ou à Chantilly. Bon.
Faites du repassage ?
Comment ?
Vous faites du repassage ?
Non, je fais pas de repassage.
Voilà.
Mais je
allez, revenez si vous voulez.
Je repasse.
Les déconstruits ne sont pas nombreux autour de cette table. Bon,
les jeunes.
Et nous parlerons également évidemment de Bernard Pivot. Vraiment, on reparlera de Bernard Pivot, on a deux ou trois petites séquences et c'est intéressant d'en parler. À tout de suite et merci Gilles William. Anne-Sophie Jeanne, les derniers jours de Johnny. Bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Bon, on le savait, mais c'est un calvaire, les derniers jours de Johnny, parce que la maladie est très puissante, très forte et
Il n'y a rien à faire et pourtant lui, il croit quasiment jusqu'aux derniers instants. C'est ça qui est absolument fascinant dans ces derniers jours et qui est poignant. C'est que c'est un homme qui lutte contre un monstre qui est beaucoup plus fort que lui, mais qui malgré tout ne va rien lâcher. Il va se battre avec tous les pores de sa peau, avec tous ses os qui malgré tout... tous sont en train de se fracturer. Enfin, il vit un calvaire, il est dans une douleur infinie. tout son corps n'est que douleur, mais il refuse de lâcher, il refuse d'abdiquer face à la mort.
On va en parler ensemble. Soumaïa Labidi est avec nous, bien évidemment, et puis on a toutes les autres actualités à évoquer. Soumaïa.
Marseille se prépare, J-1 avant l'arrivée de la flamme olympique, bateau sondé, parcours sécurisé, 6000 policiers et gendarmes mobilisés. Pour l'occasion, le Vieux-Port sera piétonnisé avec des opérations de filtrage dès 7h du matin, le tout agrémenté de nombreuses festivités. Un adolescent gravement blessé après avoir été enlevé et séquestré dimanche à Reims. Le parquet précise que son enlèvement était, je cite, en lien avec une relation intime avec une jeune femme. Une enquête a été ouverte pour les faits criminels d'enlèvement et séquestration sans libération volontaire et violence aggravée. Et puis une grande première, 70 ans après la bataille de Dien Bien Phu, la France invitée au Vietnam. Le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, a participé aux cérémonies commémorant la défaite française de 1954, comme vous pouvez le voir sur ces images.
Merci beaucoup, Soumaïa. C'est intéressant parce que cette bataille de Dien Bien Phu, cette guerre de Dien Bien Phu, est une guerre que je trouve un peu oubliée par rapport à l'Algérie, qui est assez présente, les événements d'Algérie ou la guerre d'Algérie. Et Dien Bien Phu est quelque chose qui est assez peu évoqué.
Oui, mais qui est commémoré sur les monuments aux morts, quand même. C'est le 8 juin, je crois.
L'électrice du Rassemblement National poussée vers la sortie de l'association des... Vous voulez dire quelque chose,
pardon ? Aujourd'hui, pardon. C'est le 7 mai, oui, effectivement. C'est aujourd'hui.
L'électrice du Rassemblement national poussée vers la sortie de l'association des Restos du Cœur a été réintégrée après son témoignage émouvant sur TF1 expliquant les raisons de son vote. Colombe avait été contrainte de démissionner des Restos du Cœur, l'association considérant que ses propos constituaient une violation du principe de neutralité de la charte de l'association. Si on virait tous les chanteurs qui avaient donné leurs sentiments sur la vie politique et leur vote pour les uns ou les autres, il ne resterait plus grand monde sur la scène. Le problème de Colombe, manifestement, c'est qu'elle avait donné sa voix au Rassemblement national.
Il y a quelque chose de très marquant. Personne, je dis bien personne dans l'espace médiatique, politique, a défendu la décision des Restos du Cœur. Oui. Personne à gauche. Vraiment personne. Donc, alors en plus, leur communiqué, il est vraiment très tiède. Si elle, désormais, elle se conforme à notre charte et qu'elle ne donne plus son bulletin de vote, ils n'auraient pas pu dire on s'est trompé. Non,
c'est la responsable qui a pris cette décision qui devrait être virée.
Donc, elle va être réintégrée, tant mieux. Mais vraiment, c'est intéressant de noter que pour une fois, il y avait une unanimité contre cette décision des Restos.
Oui, mais personne. Alors, c'est drôle ce que vous dites, parce que personne ne l'a attaqué, mais personne ne l'a
Alors, à gauche, ils étaient là pour capter sa voix après ses larmes. François Ruffin, Léon Desfontaines qui se sont exprimés pour essayer de les récupérer. Parce qu'elle, elle, toute seule, elle représentait le vote populaire qui a fait le choix du Rassemblement national plutôt que de la gauche. Mais là, effectivement, après, personne n'était là pour la défendre à gauche.
Mais bien sûr, et surtout, ceux qui donnent au Rassemblement, ce qui donne au Resto du Cœur, s'ils viennent du Rassemblement national, on accepte pas l'argent.
On n'accepte pas leurs sous.
Et puis, donc, ça
Il fallait virer
leur temps, en l'occurrence.
Le gars ou la fille qui a pris cette décision stupide.
Leur temps, en l'occurrence, parce qu'elle est bénévole depuis des années.
Et leur temps, elle est depuis 1990. Ouais. Alors, voyez ce sujet, parce que je trouve qu'effectivement, Aminata Dem.
Colombe sera finalement de retour au Resto du Cœur. Une décision accueillie comme un soulagement pour celle qui souhaite désormais retrouver un peu de tranquillité.
Heureuse d'être réintégrée, mais aujourd'hui, ce à quoi elle aspire, c'est au calme et de retrouver une vie normale.
À l'origine de la polémique, cette interview tournée par nos confrères de TF1, où Colombe, 60 ans, évoque les raisons de sa venue au meeting du Rassemblement National le 1er mai à Perpignan.
Regardez, moi je suis RSA et on a du mal à vivre. Je suis conseillère en insertion professionnelle et au jour d'aujourd'hui, je ne trouve pas de travail, mais je suis bénévole au Resto du Cœur et j'aide les gens de la rue.
En affichant son appartenance au Resto du Cœur lors de ce meeting en période électorale, Colombe a reçu un rappel à l'ordre d'un responsable de l'association sur le principe de neutralité politique inscrit dans la charte de ses bénévoles.
C'est une initiative individuelle, cette exclusion. Alors, ce n'est pas vraiment une exclusion, on l'a poussée à la démission. En fait, ce ne sont pas les états-majors des Restos du Cœur qui lui ont demandé de partir. En fait, c'est une responsable locale qui a pris l'initiative de lui demander de démissionner.
Bénévole au Restos du Cœur depuis 34 ans et au chômage depuis 3 mois, Colombe espère désormais retrouver un emploi prochainement.
Bon, au-delà, évidemment, du cas Colombe, monsieur Dacier.
Oui, je vous écoute. On est ensemble. Avec intérêt.
Oui.
Vigilance et attention.
Oui, ben vous avez raison, vous êtes tous sur vos portables et les gens, quand je sors de l'émission, me disent les gens sont sur les portables.
Vous voulez que je vous redise au mot à mot ce que vous venez de dire ?
Oui.
Non.
au-delà de, comment dire, au-delà de cette affaire-là, ça montre aussi une femme de 60 ans qui est en situation difficile en France.
Ah bah, l'emploi des seniors, c'est un sujet. Si je puis me permettre, c'était surtout
bien,
ça le sujet.
Mais bien sûr,
c'était son témoignage. C'est ça qui a frappé, qui a touché les gens. Elle incarne en effet cette France qui n'y arrive pas, qui n'y arrive plus. Elle dit, voilà, on marche sur la tête parce qu'elle a bossé, elle n'arrive plus à bosser, elle n'arrive plus à vivre de l'aide qu'on lui fournit.
Oui, mais le paradoxe, pardonnez-moi de dire comme ça, c'est qu'il y a du travail.
Elle a 60 ans. Là, en l'occurrence, elle, oui, à 60 ans, c'est compliqué. Sur non, son métier, je ne sais pas.
C'est ça qui est. C'est des sujets très...
chômage.
Non, mais elle ne peut pas toucher que 100 euros.
Trois mois qu'elle est au chômage et elle a 60 ans. Vous savez très bien que les entreprises rechignent à embaucher des gens de 60 ans.
Bien sûr.
L'emploi des seniors,
vous avez raison.
Qui n'a pas été traité au moment de la réforme des retraites.
Vous avez parfaitement raison.
Il y a du travail, mais les gens ne sont pas forcément formés pour ça. Il y a la question de la mobilité géographique qui se pose aussi. Son témoignage est édifiant, par exemple, sur la désindustrialisation de la France, sur les ravages du marché européen de l'électricité qui a conduit à l'augmentation du coût des factures. Et je pense qu'une certaine gauche, qui aujourd'hui est quand même à 1,7% présidentielle, devrait se soucier de ça. Comprendre pourquoi on a 47% des employés, des ouvriers qui votent RN aujourd'hui. Ça ne vient pas de nulle part.
Et une certaine gauche, il faudrait aussi parler de la Macronie et de Renaissance. On voit bien qu'ils se sont complètement plantés dans leur volonté stratégique pour les européennes. Ils ont voulu parler de l'Ukraine et des sujets internationaux. Non, ça se fait sur les sujets nationaux. Alors vous allez sur tous les sujets nationaux. Pouvoir d'achat, qu'est-ce qu'elle propose Valérie Ayé ? On n'entend pas qu'est-ce qu'elle dit à Colombe. On ne l'a pas entendu sur Colombe. Vous lui parlez de l'immigration, elle vous dit que ce n'est pas le sujet. Vous lui parlez d'insécurité, elle vous dit pas de récupération politique. Et ben ça va finir sans doute en dessous de Raphaël Glucksmann. Voilà.
Mais elle reflète la pensée du président, je le crains. C'est qu'en effet, on doit parler de l'Europe pour les élections européennes.
Ah oui, vous y allez, dites
donc. Non, mais c'est vrai. Les macronistes, quand vous les sondez, les électeurs macronistes, ils vous disent qu'ils vont voter sur les sujets nationaux. Emmanuel Macron, il s'est dit, ça a formidablement marché, l'effet drapeau sur la présidentielle. J'ai fait très peu campagne et j'ai été réélu haut la main, puisque l'effet drapeau, quand il y a une guerre, les Français se tournent vers la figure d'autorité. On va refaire le même coup avec l'ambiguïté stratégique et les soldats qu'on pourrait envoyer en Ukraine avec les européennes. Ça a marché pendant une très courte période, elle a gagné quelques points, et puis elle en a perdu, puisque sur les sujets concernant, elle n'est pas là, elle n'est pas au rendez-vous, elle n'a pas de proposition.
C'est dans un mois et deux jours.
Voilà.
C'est le dimanche 9 juin. Elisabeth Badinter qui appelle à mieux partager les tâches au sein du couple. Messieurs, encore un effort. Être mère n'a jamais été aussi difficile, dit-elle. Alors, est-ce vrai ou pas ? Je n'en sais rien. Être mère n'a jamais été aussi difficile. Chacun peut interpréter cette phrase. Je ne sais ce que vous, je vois, vous vous entend sourire. Peut-être avez-vous un avis. Peut-être vous-même êtes mère.
Ben, j'ai écrit ce livre pendant mon congé maternité, donc je sais très bien ce que c'est. Ouais. Et en effet, c'est-à-dire qu'on doit être performante sur tout. Qu'en effet, il y a toujours un partage des tâches qui est inégal, et le vrai sujet aussi du féminisme, il est là. C'est-à-dire à quand 50-50 au foyer, la charge mentale ne doit plus être supportée que par les femmes. Et messieurs, aidez-nous.
Mais alors Charlotte Dornelas, Charlotte Dornelas, alors vous n'êtes pas a priori pas venu pour parler de ça, hein, vous n'êtes pas venu pour parler de Johnny Hallyday, mais c'est indiscret de.
Il y a beaucoup de couches d'ailleurs.
Non mais pardonnez-moi, je pose des questions antennes que j'oserais pas poser dans la vie, bien évidemment, mais je pense aux téléspectateurs.
C'est pire.
C'est indiscret. Bon, vous avez combien d'enfants ?
Un seul.
Quel âge il a ?
11 mois.
11 mois, donc il est bon. Et vous avez donc un compagnon, je ne sais pas si vous êtes marié.
Un mari, oui.
Bon, et j'imagine que votre compagnon est jeune, sans doute, comme vous l'êtes.
Oui, on est relativement jeune.
Il appartient à la nouvelle génération. Mais est-ce que vous diriez, il nous écoute peut-être d'ailleurs, et sans doute, est-ce que vous diriez que il fait plus, par exemple, que votre père pouvait faire lorsque vous aviez 2 ans, 3 ans ?
Il y a une amélioration, mais c'est vrai que je crois qu'on ne réalise pas à quel point, d'abord, il y a un bouleversement biologique chez la femme qui a été prouvé. Il y a une étude qui est sortie dans le New York Times qui est fascinante là-dessus, sur le fait, après avoir accouché, le cerveau est modifié. Et il y a des zones du cerveau qui, c'est malheureux, rétrécissent, et d'autres qui, au contraire, augmentent pour que la biologie, en fait, tout le corps est concentré sur la survie de l'enfant. Donc on est épuisé. Et malgré tout, on doit s'occuper donc d'un enfant qui demande énormément, mais aussi finalement de la maison, du travail, etc. Rester performante, toujours sourire et avoir l'air de jamais se plaindre. Alors après, c'est heureusement, parce qu'il faut rester positif. Mais ce que je veux dire, il y a quand même encore aujourd'hui un petit peu un regard, un peu « oh là là, oui, dès qu'une femme a un enfant, elle va disparaître du marché du travail ». il y a dans l'entreprise même un peu de condescendance.
Moi, je n'ai pas ce sentiment, mais si vous le dites, je vous crois, je n'ai pas ce sentiment. Je n'ai pas ce sentiment qu'il y a de la condescendance dans l'entreprise pour une jeune femme qui est enceinte ou qui revient après son bébé. J'ai l'impression que, alors que c'est nos métiers qui sont différents de, peut-être des métiers de l'industrie, etc. J'ai le sentiment que dans nos métiers, métiers de journaliste, métiers d'animation, métiers de télévision, les femmes ont une part très importante. Et je cite toujours les mêmes exemples. Les interviews le matin politiques sont faites uniquement aujourd'hui par des femmes.
Oui, mais c'est des super-héroïnes, pour, si elles ont en plus des enfants, parce que c'est épuisant. Et non seulement ça, mais elles doivent rester aussi performantes. Et heureusement, et elles le sont, mais sur tous les points de vue.
Charlotte Dornella, je ne voudrais pas parler au nom des femmes, mais je préfère que ce soit une
non,
femme
mais moi non
parle.
Plus, en fait, je vais parler que, en mon nom, ça va déjà être bien. Mais je ne veux pas parler au nom des femmes non plus, simplement, je trouve qu'il y a beaucoup d'incohérences, en fait, sur ce sujet. D'abord, là, on examine deux sujets différents.
Et vous trouvez, par exemple, que ce que dit madame est incohérent ?
En l'occurrence, là où je ne suis pas d'accord, c'est de faire d'un sujet particulier, d'un sujet personnel, une relation personnelle, un cas de gestion politique. C'est-à-dire que moi, que les hommes politiques s'intéressent à la répartition des tâches, non merci en fait. C'est bon, l'État est suffisamment présent dans nos vies pour pas en plus s'inviter chez moi. On va le gérer comme des grandes personnes, avec la personne avec qui on partage notre vie, et puis ça va bien se passer. Ensuite, non mais c'est vrai, vraiment, j'ai vraiment pas envie de ça. On va pas en plus le réguler par la loi, quoi.
Badinter, elle est pas...
Non, mais Badinter, là, en l'occurrence, moi d'abord, j'ai pas encore lu son livre, et ensuite, elle peut très bien faire un témoignage de ce qu'elle aimerait... ça, j'ai pas de problème, mais Sandrine Rousseau avait proposé d'en faire une loi quand même sur la répartition des tâches, donc c'est quand même une proposition qui a été faite. La deuxième chose, c'est que collectivement, dans le discours et la place de la femme et de l'homme par rapport notamment au fait d'avoir un enfant et ensuite de l'élever, là, je vois une forte contradiction. Parce que d'abord, ce sont les femmes qui portent les enfants, personne ne l'a choisi, aucun parti politique, ni aucun commentateur au monde. Donc il y a un lien, et vous le disiez d'ailleurs, il y a un lien extrêmement fort à ce moment-là. Je note que, pile au moment du choix, par exemple, de la poursuite de la grossesse, là où la société pourrait se dire « c'est le moment de concerner tous les hommes », eh bien on leur dit « vous n'avez pas votre place, ce choix n'appartient qu'à la femme ». Déjà, dès le début, on leur dit « vous êtes gentils, c'est une histoire de femme, le lien n'existe qu'avec la femme ». Moi, je pense que c'est précisément le moment où on devrait leur dire « excusez-moi, mais c'est vraiment une histoire à deux, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faudrait concerner ». Là, j'y vois la première contradiction. Ensuite, quand se déroule, en effet, le lien entre la mère et l'enfant pendant la grossesse est extrêmement développé. Scientifiquement, on découvre énormément de choses sur la puissance de ce lien-là. Donc, avec un peu d'humilité, on le regarde et on se dit « ce lien est plus fort entre la femme qui porte son enfant et l'homme qui est à côté d'elle et qui essaye... Il y a des hommes incroyables pendant la grossesse qui accompagnent. Il y en a d'autres qui, au moment de la naissance, accompagnent de manière formidable. Et ensuite, je crois qu'il faut qu'on... Moi, j'aimerais un discours où on se dise, entre adultes, en effet, vous pouvez partager. Moi, je ne sais pas, chez moi, j'ai vu mon père faire un nombre de choses incroyables. Et parfois, quand j'entends parler des hommes et des femmes dans le sein de la sphère personnelle, j'ai envie de leur dire, voilà, excusez-moi, mais je ne sais pas, moi, je ne m'y retrouve pas du tout. Donc, je vois aussi ces différences-là qui arrivent. Et ensuite, il y a un gros... Alors ça, c'est un énorme sujet qui pèse sur beaucoup de femmes. C'est le fait d'élever seules leurs enfants. Et là, c'est la question des familles monoparentales. Ça repose beaucoup sur les femmes. Et là, certains hommes se comportent très mal. Mais comme dans la vie, certains se comportent très mal. Il y en a aussi qui se comportent très bien.
Écoutons Elisabeth Badinter. Messieurs, encore un effort. Mais Elisabeth Badinter, elle part d'un principe. Et a-t-elle raison ou pas, on ne devient pas une femme. On n'est pas femme, pardon. On le devient. C'est ce que disait Simone de Beauvoir.
Par rapport à l'enfant, ça se dit.
Et effectivement, elle dit que l'instinct maternel n'existe pas. Ça fait 40 ans qu'elle dit ça.
Toute la psychologie évolutionnaire montre l'inverse. Mais...
Oui. Donc aujourd'hui, elle ne peut pas revenir sur ce qu'elle dit depuis 40 ans. Effectivement, aujourd'hui, dans ces cas-là, elle dit, messieurs, encore un effort. Écoutons-la.
On est mère, mais on est aussi une autre personne qui est la femme. C'est-à-dire, on a, en tant que femme, des intérêts personnels, des intérêts professionnels, une volonté d'indépendance financière. Malheureusement, encore aujourd'hui... non seulement dans des pays qui ont d'autres cultures, mais ici aussi, quelque part, ça ne choque pas vraiment les hommes que les femmes fassent la double journée de travail. C'est tout simplement considéré comme normal.
Je pense qu'elle a raison, que les choses changent beaucoup plus lentement qu'on ne le dit. Et quand tu pénètres quand tu pénètres dans les familles, tu demandes qui a emmené l'enfant chez le dentiste, qui s'est arrêté de travailler lorsque l'enfant était malade, est-ce que c'est le père ou la mère, qui a fait la cuisine hier soir, etc. Tu t'aperçois que à toutes ces trois questions-là, c'est toujours...
Je trouve que ça a beaucoup changé avec notre génération. Ouais. Très honnêtement, pour l'observer, non, je vois une réforme
égalité. Les choses changent beaucoup plus lentement qu'on ne le dit, précisément.
Ah oui, parce qu'il y a une manière de faire changer les habitudes très vite. Hein. C'est de faire des lois, de mettre les gens en prison, d'imposer...
Non, mais on ne parle pas de loi. Personne ne parle de loi. Enfin, donc, Sandrine Rousseau qui n'est pas spécialement une alliée de...
Qui fait quoi à la maison? On a interrogé... Qui fait quoi à la maison? On a interrogé quelques téléspectateurs.
Il fait complètement le job et on est à 50-50 sur les tâches ménagères, sur la cuisine, voilà, sur toutes ces choses-là. Donc j'ai pas l'impression d'avoir une charge mentale plus élevée que lui.
J'essaye de faire mon maximum en tout cas. Et je pense qu'aujourd'hui le rôle des hommes est important au quotidien par rapport à ça.
Est-ce que vous avez l'impression, monsieur, de faire des efforts sur les tâches ménagères?
Aucun. Voilà, je suis désolé, mais très peu.
C'est vrai?
C'est vrai.
Qu'est-ce que vous en pensez?
C'est vrai, mais en même temps, si tu fais le jardin, c'est déjà pas mal. Il fait les courses. Qu'est-ce qu'il va faire d'autre? Après, il est très bricoleur et il fait beaucoup de jardin.
Il fait des efforts. De toute façon, je lui en demande puisque j'ai des horaires à rallonge. Et s'il n'y contribue pas, c'est le bazar à la maison.
Je salue Michel Mouly, qui est intervenu plusieurs fois ici, qui est médecin et qui dit pourquoi majoritairement, dans ce cas, ce sont les hommes qui font la guerre et les femmes gardent les enfants et quittent le pays. Rien ne remplacera une mère, dit-il. Bon.
On oublie juste un détail, c'est que les Françaises ne font plus d'enfants, ou en tout cas, elles en font beaucoup moins.
Elles en font moins, mais elles en font deux.
Expliquez-moi pourquoi.
Non, moins de 2 mois.
Mais de moins en moins. Mais... On est en dessous de 2. Mais, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez d'enfants pour renouveler nos générations.
Il y a sûrement beaucoup de raisons.
Oui.
Mais j'entends une souvent, c'est que c'est un enfant est vécu comme une contrainte. Et que j'entends des jeunes femmes,
c'est souvent le cas.
Et j'entends des jeunes femmes qui me disent qu'elles ne veulent plus de mecs, parce que ça les fatigue, qu'elles sont très bien toutes seules, indépendantes. Et qu'un enfant, et qu'elles ont envie d'être libres et de vivre leur vie comme elles l'entendent.
Oui. Chacun
fera. Eh bien,
nous verrons comment ça se passe.
Je ne dis pas qu'il n'y a que ça.
Oui, et après,
loin de là.
Et après, on lance des grandes campagnes contre l'infertilité.
Et surtout, il y a eu des politiques conduites, notamment sous le quinquennat François Hollande, qui ont été très délétères. La fin du caractère universel des allocations familiales, la baisse du complément, le mode de garde. Il y a une corrélation statistique quand même.
Oui, absolument.
Je pense que les droits individuels aujourd'hui sont au cœur de. Les gens, ils ont envie de.
Oui, c'est une révolution écologique.
Il y a beaucoup de choses qui est vécue comme une contrainte.
Les couples modernes. Mais comment dire, éduqués sont quand même en net progrès, me semble-t-il. J'ai pas de statistiques.
Vous avez raison.
Vous me surprenez beaucoup, c'est sur l'étude du New York Times.
Oui.
On va regarder ça, parce que si vraiment la fertilité et la naissance fait que ça se modifie là-haut.
Mais c'est pas pour toujours.
Non, mais moi je ne savais pas. Pardonne-moi, mais je ne savais pas que c'est. Bon, pas pour toujours. Mais il y a.
Anne-Sophie Anne, les derniers jours de Johnny. Alors, il y a des choses, je me suis dit en lisant le bouquin. David Hallyday, s'il lit le bouquin, il ne va pas être content.
Alors,
parce que vous redonnez, vous donnez une nouvelle version. Par exemple, vous dites que c'est Johnny qui ne veut pas voir ses enfants. Alors que l'idée, c'est plutôt de dire que c'est Laetitia qui fait barrage.
Alors la grande difficulté quand on écrit un livre sur Johnny Hallyday, la plus grande difficulté, c'est qu'on est de toutes parts, pendant l'enquête déjà, sommé de prendre parti. C'est-à-dire qu'il y a deux clans très nets, donc le clan Laetitia, le clan des enfants aînés, et on dit, mais c'est pour qui? C'est un livre pour ou contre? Pour quel clan? Or, ce livre, il a été écrit complètement indépendamment, ce n'est pas une commande, c'est pas un livre autorisé, et j'ai mené donc cette enquête absolument libre de tout préjugé. Et surtout, j'ai pas écrit 200 pages pour donner des bons points et dire pointer du doigt en disant c'est la faute de machine, c'est la faute de machin, etc. Donc quelque part, je n'épargne personne, en effet, mais aussi
c'est dur d'ailleurs pour eux. Je vous assure, on se rend pas compte. Alors c'est la rançon de la gloire sans doute, mais David Hallyday il va deux fois à la Savana.
Oui.
Bon. Et la première fois, donc son père le reçoit pas. La deuxième fois. Il attend des heures et vous le racontez.
Oui, oui, oui.
Et moi, je lis, Johnny dit, je veux pas voir mon fils. Je vous assure, je suis David Hallyday, je lis ça, mon père est mort. C'est douloureux quand même de lire ça. Je pense à lui et je me dis, et lui doit se dire, mais d'où cette jeune femme
tient-elle ça? Qui lui a dit le rapport que j'avais avec mon père était puissant, était fort? Mm-hmm. Et vous réhabilitez d'une certaine manière Laetitia, qui passe toujours pour une méchante,
mm-hmm. Oui.
À grands traits. Et Laetitia dit à Johnny, il faut que tu reçoives tes enfants, c'est à toi de les recevoir, etc. Et lui n'est pas sur cette ligne.
Alors, je la réhabilite dans le sens où... Bah, personne n'est absolument méchant et personne n'est absolument gentil. C'est ça ce qui est intéressant aussi dans cette affaire. C'est que, et je pense que Laetitia, elle n'est pas parfaite non plus. Ce n'est pas une noix blanche. Elle a ses torts, certainement. Ce qui m'a intéressée, là, c'est de fouiller l'humain. C'est qui, Johnny? C'est qui, cet homme? Et quels ont été ses choix à la fin de sa vie? Au moment, justement, parce que c'est tellement révélateur. Comment écrire un portrait sans le confronter au moment où il est confronté à la mort? Là, c'est la réelle personne qui tout d'un coup sort et s'exprime. Et cet homme, aux dernières minutes, aux dernières heures, aux derniers jours, aux derniers mois, il veut vivre comme il l'entend, de façon d'ailleurs en effet assez égoïste et cruelle parfois vis-à-vis de ses aînés, parce qu'en effet, leur fermer la porte, quelle cruauté. Le fait.
Mais pourquoi?
Il y a plusieurs explications. Je pense que d'abord, la première, c'est qu'il a voulu vivre ces derniers jours comme il a vécu sa vie. Il a refusé la mort. Et donc, du coup, quand tout d'un coup, ses enfants viennent le voir tous les jours, alors que ce n'était pas forcément le cas, ils avaient des relations un petit peu distendues, ça tout le monde le sait depuis des années, et donc, qui tape à sa porte avec un regard triste, etc., il ne le supporte pas, parce qu'il ne veut pas être traité comme un mourant. Ce qu'il veut, c'est dîner aux grandes tables, voir ses copains, faire comme avant, enregistrer un album, partir en tournée. Il ne veut pas être le vieillard mourant sur son lit de mort qu'on regarde avec pitié.
Alors, vous racontez des scènes incroyables, parce que c'est un hôpital, en fait, lorsqu'il joue. Mm-hmm. Il sort de scène, un jour il a même du mal à retrouver son souffle. C'est extravagant, parce qu'on ne s'en aperçoit pas ou peu lorsqu'il est sur scène. En fait, il est dans un état, il a un masque à oxygène, il y a peut-être des transfusions avant de monter sur scène, il y a plein de choses qui sont faites, autrement il ne peut pas tenir. Il aurait dû mourir en janvier, d'après les médecins. Nous sommes en mars et chaque jour, chaque minute est une victoire qui le persuade de son invincibilité. Je ne suis pas un être comme les autres, sinon je serais mort, assure-t-il. Quand son producteur de spectacle, Jean-Claude Camus, vient déjeuner avec lui à Los Angeles, Laetitia le prévient par SMS. Mon coco, avant que tu arrives, je voudrais que tu saches que Johnny est atteint d'un cancer et c'est grave. Parce que Laetitia, visiblement, on lui dit tout, tout de suite.
Elle est la fonction support, en effet, la plus importante. Laetitia... Là, on peut dire ce qu'on veut sur elle. Elle est méchante, etc., ou pas. Mais en tout cas, c'est la personne qui gère toute sa vie. Au moment, dans la dernière année de sa vie, c'est elle qui gère les rendez-vous chez les médecins, en effet, les traitements, qui voir les spécialistes, etc., l'agenda, etc. Elle est le pilier numéro un dans cette heure-là, cette heure fatale. Et donc, évidemment, elle est au courant de tout, parce qu'elle parle avec les médecins quotidiennement, elle voit surtout son mari quotidiennement, donc elle peut dire, voilà, comment adapter, qu'est-ce qu'on peut essayer, etc. Et elle est une forme de, ben voilà, rempart pour Johnny, pour essayer de... Elle fait tout pour lui garder la vie qu'ils avaient avant, pour qu'il puisse tenir. Parce que la réalité, c'est que cette attitude de défi face à la mort, c'est finalement ce qui va le sauver. Et ça, les médecins le disent aussi. C'est-à-dire qu'évidemment, dans un être humain, il y a le corps, mais il y a aussi l'âme, la volonté. C'est un grand mystère, finalement. Pourquoi on survit face à un cancer stade 4 où on a des métastases partout? Pourquoi certains meurent tout de suite? Pourquoi certains survivent? Lui va survivre aussi, probablement, parce qu'il se bat constamment.
C'est David Kayat qui l'accompagne. Hein, vous le citez, donc je le cite. C'est lui qui répare. Manifestement, il s'était passé quelque chose à Los Angeles où le protocole n'avait pas été mis en place. Lui l'accompagne et l'accompagne très
choses,
bien.
Plutôt, ouais.
Il y a des scènes. Les derniers temps, Johnny dort avec sa femme et ses deux enfants. Tout le monde dort dans le même lit. Et les derniers instants de Johnny, est-ce qu'on l'accompagne ou pas? Ou est-ce qu'il s'éteint naturellement
Alors, à Los Angeles, en effet, les médecins disent « Nous, on a tout essayé de notre côté, il y a grosso modo plus rien à faire. » Et c'est là où ils vont rentrer à Paris et solliciter d'autres spécialistes, dont le professeur Kayat, qui va dire « Maintenant, il y a d'autres, essayons d'autres protocoles, etc. » Donc, ils essaient absolument tout, dont des traitements d'ailleurs assez novateurs. Je pense à la cimentoplastie.
Alors
etc.
Ça, c'est une horreur, c'est absolument, vous dites, c'est d'une douleur inouïe.
Il a tous ses os, comme il y a des métastases dans les os, ses os se brisent. Et donc on injecte du ciment dans ses os pour les renforcer et puis qu'ils puissent continuer à marcher. Et en effet, jusqu'au bout, il y a le petit clan est très resserré autour de lui. Alors à la fin, il ne dort pas dans le même lit parce qu'il a un lit médicalisé, mais tout le monde s'installe en gros dans son bureau parce qu'il ne peut plus monter les escaliers jusqu'à sa chambre et l'accompagne jusqu'à la fin quasiment, sauf la dernière minute où il est sans sa femme et ses filles.
Je lisais ça et évidemment, personne ne sait comment il réagirait s'il avait une maladie qui était incurable. Je lisais ça et je pensais à Paul Auster qui est mort dans sa bibliothèque et qui a refusé tous les traitements. Mm-hmm. Et chacun, évidemment, peut être confronté à cela. À quoi ça sert, parfois, tous ces traitements? Et j'ai eu cette conversation, j'ai appelé David Kayat cette semaine, puisque je ne savais pas, David Kayat est toujours très discret, moi je ne savais pas qu'il s'était occupé de Johnny. Il vient souvent sur notre plateau. Je lui ai dit, vous êtes occupé de Johnny? Et il ne l'avait même pas lu, hein. C'était dans les meilleures pages de Paris Match. Il me dit, ah bon, ils l'ont raconté, etc., etc. Et je lui ai dit, à quoi bon? Alors lui, il est médecin, il dit, il faut toujours se battre, quoi qu'il arrive. Mais quand on voit la souffrance XXL, l'état parfois du cancer tel qu'il met, je voyais Paul Auster, il a dit « je meurs dans ma bibliothèque », il a refusé tous les traitements, il a arrêté. Il a dit « j'arrête ». Bon, c'est un choix que chacun, effectivement, puissions-nous ne jamais être confrontés d'abord à ce choix, mais que chacun peut se poser
en Johnny, non seulement il part en tournée, mais il part en tournée en province, oui. C'est la chose la plus difficile à faire, bien parce sûr. Que c'est extrêmement, etc. Et il ne fait pas que survivre, il vit pleinement, il vit à 100 à l'heure, quasiment jusqu'à la dernière minute.
Je ne sais pas s'il a été invité d'ailleurs chez Bernard Pivot, je n'ai pas souvenir qu'il ait fait Bouillon de culture, curieusement, qu'il ait fait le fameux questionnaire de Proust, façon pivot. D'ailleurs, on peut voir Paris Match, parce que Paris Match sort, je crois, ces prochaines heures, et à la une, bien sûr, Bernard Pivot. Et je voulais vous proposer deux ou trois séquences, si on a encore le temps, il est 10h27, de Bernard Pivot, qui nous aura tant fait lire. Il nous a tant fait lire, c'est le titre de Paris Match. Et une séquence où c'est inversé, c'est Jean d'Ormesson et ses beaux yeux bleus qui posent les questions de Pivot à Bernard, et Bernard Pivot répond.
Ferré.
C'est aujourd'hui, aujourd'hui, avec une apostrophe au milieu.
Le mot que vous détestez.
Un mauvais sentiment décrit par un mauvais mot, concupiscence.
Le son, le bruit que vous aimez.
C'est le son très discret des pages que je tourne en lisant un livre, ou le son aussi discret du stylo sur la feuille.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné.
Moi, j'aimerais bien être réincarné dans un cep de la Romanée Conti.
Je vais boire un coup à votre santé.
Allez-y, vous voyez un coup.
Votre juron, gros mot ou blasphème favori?
Oh putain, oh putain, oh putain. Toujours trois fois.
Homme ou femme pour illustrer un nouveau billet de banque?
Michel Bouquet dans L'avare de Molière.
Enfin, si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire?
Alors, Mr. Pivot, how do you do? Pas terrible, I am sorry, my God, but I don't speak English. Ah, mais c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Il parle français, évidemment, Dieu aussi. Ah, c'est vrai que vous ne parlez pas anglais. Eh bien, vous avez toute l'éternité devant vous pour apprendre l'anglais. Et je vais vous donner un très bon professeur. S'il vous plaît, allez me chercher Sir William. Shakespeare, of course.
Il aura été essentiel.
L'humour en prime. Il avait de l'humour, beaucoup.
Oui, c'est quelqu'un de joyeux. Hein.
Ouais.
D'autres ont essayé de faire de la littérature à la télévision.
L'humour aussi.
L'humour, et ça a moins bien marché. Anne Fulda a réussi très bien sur notre antenne, et je la salue, Anne Fulda, puisque elle reçoit des écrivains. On est déjà une particularité en France, c'est-à-dire que le jour où le prix Goncourt est annoncé, tous les médias s'arrêtent et parlent de ce prix Goncourt. Je ne suis pas sûr que ça existe dans tous les pays du monde. Il y a une place pour la littérature, pour l'écriture. L'écriture, ça reste important. Bon, je ne sais pas si ça continuera toujours, mais ça reste. On pourra écouter une autre petite séquence dans un instant, parce qu'il était passé à l'heure des pros, et on était avec Dominique Grimaud d'ailleurs ce jour-là, et avec Christophe Honaud-Dibiot, c'était très sympa d'ailleurs, c'était en 2017, mais Somaïa Labidi nous rappelle les titres.
Sciences Po Paris est brièvement bloqué ce matin. Poubelles, mobilier urbain et vélos obstruaient les deux entrées du prestigieux établissement parisien.
La vingtaine d'étudiants mobilisés rue Saint-Guillaume a été évacuée par les policiers. Deux manifestants ont été interpellés. Des prix à la pompe qui baissent et un écart qui se creuse. Le gazole atteint son plus bas niveau depuis janvier avec 1,75 € le litre en moyenne, quand l'essence reste à plus d'1,90 €. Et puis Israël a pris le contrôle du point de passage de Rafah et poursuit ses bombardements sur la ville avant de nouveau pourparler au Caire pour tenter d'infléchir un accord de trêve. Accord validé par le Hamas, reste maintenant à connaître la décision du gouvernement Netanyahou.
Merci beaucoup Somaya, je ne vous demande pas quel est votre mot préféré ou votre... Ah ben elle est partie Somaya. Ou votre juron préféré, je ne vous demande pas non plus. Non, ben, votre mot préféré, est-ce que vous avez un mot... Parce que c'est des questions parfois dures, est-ce que... Moi j'ai pas de mot préféré particulier.
Tout simplement parce Bonjour. Que c'est sympa, Bonjour. C'est toujours accueillant, c'est...
Et ben,
voilà.
Je vous ai pas demandé...
La discussion.
Exactement, bonjour,
ça.
Vous avez bien raison.
Et efficace.
Eh ben, c'est une émission également, je crois, sur TF1, qu'on peut saluer. Bonjour, et ben, voilà.
Je me souviens d'Yves Mourouzi.
Et je salue beaucoup, oh, et je souhaite beaucoup de réussite à cette émission, bien évidemment. Anne-Sophie Yann, vous, votre drogue préférée. Moi, je sais ce que je répondrai à cette question.
L'amour.
L'amour. Ah, vous trouvez que c'est une drogue, l'amour?
Ah bah oui, on est addict.
Ah oui Ah oui. Non, mais
vous êtes très saine, donc.
Non, vous avez raison.
C'est que vous doutiez de ça.
Mais je...
Ça donne autant de. C'est chimiquement, je pense que c'est aussi efficace que les.
Moi, je répondrais le soleil.
Ah, le soleil, ah, oui. C'est vrai.
Parce que c'est une vraie drogue
en
pour
ce
les.
En ce moment, c'est chaud.
Oui, alors oui, le soleil.
Vous êtes en manque.
Je suis d'accord avec vous. Quel métier, alors, n'auriez-vous pas aimé faire? Mais il y a plein de métiers qu'on n'aurait pas aimé faire, sans doute. Moi, j'aurais pas aimé être bourreau, c'est pas agréable.
Ah oui, je pense.
Croque-mort.
Des cœurs, peut-être. Des cœurs, peut-être, mais bon. Est-ce qu'il y a un bruit que vous préférez les uns les autres? Est-ce qu'il y a un bruit?
Oui,
le bruit de la mer.
Le bruit de la mer.
Le rebond d'une balle de tennis sur terre battue.
Ah ça, je suis d'accord avec vous.
Ça, c'est magnifique.
Moi, j'adore le son des balles de tennis l'été. Il y a un autre son qui est très bien l'été, c'est quand tu traverses, tu vas dans une rue l'été à La Baule ou à Noirmoutier, les fenêtres sont ouvertes.
Un peu les mêmes localités.
Les fenêtres sont ouvertes et t'entends le cliquetis. Des gens et puis des conversations comme ça. Bon. On a posé la question d'ailleurs, je crois, ce matin dans les rues de CNews. Quoi, dans la rue de Paris?
Non, ça y est.
Amour.
Equalizer.
Maison.
Le mot que vous détestez.
Raciste.
Approximatif.
Travail.
Le métier que vous n'auriez pas aimé faire.
Politicien.
Éboueur.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné.
Chat.
Un platane.
Si vous pouviez donner un homme ou une femme pour illustrer un nouveau billet de banque, ce serait qui?
Bernard Pivot. Jeanne d'Arc.
Le son, le bruit que vous aimez.
Schling.
Le son, le bruit que vous détestez.
Spoof.
J'ai bien gagné le mot travail quand même. Le mot que vous détestez, il a dit travail. Bon, on a le temps d'écouter lorsqu'il est venu à l'heure des pros. Allez, un petit passage quand il est venu nous voir en 2017, Bernard Pivot. Quel est le livre que vous avez le plus lu dans votre vie?
Le Petit Larousse.
Là, vous trichez. Non. Vous voyez, là, vous, non, là c'est là, vous trichez.
Mais il n'aime pas choisir.
Mais oui, ouais, ouais.
C'est vrai.
Mais vous êtes masqué.
Mais non, mais pas, si. Pas du tout, parce que
vous avancez. Là, vous êtes
roman. Parce que je l'ai raconté. J'ai raconté que quand pendant la guerre, j'avais entre 5 et 10 ans, j'étais dans un petit village du Beaujolais, le Quincy-en-Beaujolais.
Exactement.
À côté de Brouilly. Eh bien, j'avais deux livres à ma disposition. On n'avait pas de livres. J'avais une vieille édition du Petit Larousse. Et les Fables de La Fontaine. Et le seul livre que j'ai lu, on peut dire de 7 à 10 ans, pendant 3 ans, c'est Le Petit Larousse. J'ai lu, je notais des mots, je les apprenais par cœur, etc. Mon goût des mots vient de là. C'est mon goût des mots. Le premier roman que j'ai lu, la première bande dessinée que j'ai lu, je devais avoir 11 ou 12 ans. C'est très très tard. Parce qu'on n'avait pas, de livres. Où les trouver?
Quelqu'un qui me répond le bruit d'une balle de golf qui entre dans le godet. C'est le bruit qu'il aimerait faire. C'est joli, c'est joli. Bon, il sera enterré d'ailleurs à Quincy, en Beaujolais, Bernard. Quincy?
Quincier.
À Quincier?
Oui.
Je croyais que c'était Quincy.
Quincy n'est pas.
Pardonnez-moi. Merci. Merci d'abord à Anne-Sophie Yann qui était avec nous les derniers jours de Johnny. C'est chez Grasset. Mm-hmm. Et c'est vrai que c'est passionnant. C'est remarquablement écrit.
Merci.
Et c'est intéressant de vous lire. Je vais remercier Frédéric Spirola qui était avec nous ce matin. Jérémy était à la réalisation. Ludovic Liebard était à la vision. Yannick était au son. Merci à Marine Lançon qui est indispensable, comme vous le savez, à cette émission et qui sera là demain et après-demain, quoi qu'il y ait un pont. quoi qu'il y ait un pont, puisque demain, c'est le 8 mai, c'est férié. Célèbre la victoire des Alliés. Après, c'est l'ascension. Hein, ça fait 2 jours.
Et puis c'est le pont.
Voilà, 2 jours. Et puis après, c'est le pont. Donc, comme ça, les Français.
Le pont.
Les Français. Les Français travaillent pas trop. Comme ça, c'est parfait.
Il semblerait, oui.
Il semblerait. Bon, je salue les habitants de la Mongie. Je leur souhaite bonne chance. Et Jean-Marc Morandini, dans une seconde. Toutes ces émissions sont retrouvées sur cnews.fr à ce soir.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.